Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur RCJ en ce mercredi 23 octobre, il est 8h.
La matinale info, Elsa Parienté.
Au programme de cette édition, notre correspondance en direct d'Israël avec Julien Baloul à 8h15, l'invité de la matinale Maor Chiche, adjoint au maire du 19e arrondissement PS. Et tout de suite sur RCJ, place à l'actualité.
Le journal Margot Siffer.
Bonjour Margot.
Bonjour Elsa, bonjour à tous. L'armée israélienne a annoncé hier la mort du soldat de réserve Sahar Eliad Nourski, 27 ans, et du commandant de réserve Aviram Rahiv, 42 ans. Ils ont été tués lors de combats au sud du Liban. Tsahal a intercepté il y a peu de temps deux projectiles lancés depuis le Liban vers le Gouch Dan et la Basse Galilée. Ont également été interceptés deux drones lancés depuis l'est vers la région d'Elat. La résistance islamique en Irak en a revendiqué la responsabilité. 20 roquettes ont enfin été tirées hier soir depuis le Liban sans faire de blessés. L'armée israélienne a de son côté frappé au cours des dernières 48 heures 70 terroristes et 3 commandants du Hezbollah au sud du Liban. Elle a également confirmé hier soir l'élimination de Rahem Safieddine, le successeur pressenti d'Hassan Nasrallah, il y a près de 3 semaines dans le quartier de Dariyeh. À Beyrouth, le chef du renseignement du Hezbollah ainsi que 25 de ses membres ont aussi été tués. Attendu ce mercredi en Arabie Saoudite, Anthony Blinken devrait discuter de la normalisation des relations entre Riyad et Israël. Israël, où il était hier et où il a souligné l'importance de capitaliser sur le succès de l'élimination de Yahya Sinwar pour libérer tous les otages. Le secrétaire d'État américain exhorte également Israël à prendre des mesures supplémentaires pour augmenter l'acheminement d'aide humanitaire à Gaza. Il a enfin demandé à ce que l'opération terrestre au Liban se termine et que la réponse contre l'Iran soit modérée. Yoav Gallant déclare quant à lui que le soutien de Washington sera crucial après la riposte israélienne prévue contre Téhéran. Le porte-parole du Pentagone a démenti hier soir les informations selon lesquelles l'une de ses cadres supérieurs d'origine iranienne serait soupçonnée d'être à l'origine de la fuite des documents israéliens d'attaque contre l'Iran. Il précise être en contact avec l'État hébreu concernant les détails de l'enquête. Le Hezbollah a revendiqué l'entière et exclusive responsabilité du lancement de drones survenu samedi dernier sur la résidence de Benjamin Netanyahou à Césarée. L'enquête israélienne confirme quant à elle une implication iranienne. Des responsables de l'ambassade d'Iran à Beyrouth seraient impliqués dans cette tentative d'assassinat. Le premier ministre irakien a annoncé hier la mort de 9 dirigeants de Daesh en Irak, dont son chef local. Ils ont été tués au cours d'une opération antiterroriste menée dans le nord du pays. Alors qu'une conférence en soutien au Liban se tiendra demain à Paris, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a précisé lors des questions au gouvernement la position de la France. On l'écoute.
Vous l'avez rappelé, le Liban, pays qui vous est cher, pays cher à la France, est aujourd'hui plongé dans le chaos d'une guerre. Une guerre dont la responsabilité première incombe au Hezbollah, qui a choisi délibérément, dès le lendemain du 7 octobre, de faire pleuvoir le feu de ses roquettes sur le nord d'Israël.
Jean-Noël Barrot qui précise que cette conférence de soutien au Liban sera l'occasion d'avancer sur 3 domaines, le champ diplomatique avec un cessez-le-feu immédiat, le champ humanitaire et le champ institutionnel. Dans le reste de l'actualité internationale, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné hier la Russie pour sa loi sur les agents de l'étranger adoptée en 2012. Elle la juge arbitraire et créant un climat de méfiance envers les associations. La juridiction avait été saisie par 107 ONG, médias et membres de la société civile russe. Le Parlement européen a voté en faveur d'un prêt pouvant aller jusqu'à 35 milliards d'euros pour l'Ukraine. Il sera financé par les profits qui ont été dégagés depuis que les avoirs russes ont été gelés en Europe. Les premiers versements sont prévus début 2025. En France, un individu a été aperçu dans le métro parisien arborant un t-shirt avec l'inscription anti-juif sur le dos. Cela s'est passé lundi en fin d'après-midi sur la ligne 13, station Saint-François-Xavier, direction Saint-Denis. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour provocation à la haine publique. La présidente de la région Île-de-France, qui annonce exploiter des caméras de surveillance, affirme que l'antisémitisme n'a pas sa place dans notre pays. La RATP, qui a déposé plainte, a également déclaré condamner avec la plus grande fermeté le racisme et l'antisémitisme. La proposition de loi du Rassemblement national pour amener l'âge de la retraite à 62 ans arrive ce mercredi en commission à l'Assemblée. Hier soir, la surtaxe temporaire sur les hauts revenus du projet de budget 2025 a été élargie et pérennisée par les députés contre l'avis du gouvernement. La mesure est censée rapporter 2 milliards d'euros l'an prochain. Les recherches se poursuivent pour retrouver Santiago, un bébé prématuré de 17 jours, enlevé lundi soir par ses parents dans une maternité d'Aulnay-sous-Bois en région parisienne. Il pourrait l'avoir emmené en Belgique, où la police a lancé hier soir un avis de recherche nationale. Et enfin, un mot de culture avec les romans de Sandrine Collette, Kamel Daoud, Gaëlle Faye et Hélène Gaudy qui figurent sur la liste des finalistes du prix Goncourt. Il sera décerné le 4 novembre prochain.
Merci beaucoup Margot Siffer, 8h06 sur RCG. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant en direct d'Israël avec Julien Balloul.
En cette rentrée 5785, nous nous devons d'être forts, unis et solidaires.
Forts pour protéger les plus fragiles et soutenir notre jeunesse. Unis pour porter les valeurs et l'engagement de notre communauté. Solidaires pour financer les actions sociales et humanitaires en France et en Israël.
Nous formulons tous nos vœux de paix et de solidarité. Accompagner, nourrir, protéger, héberger seront nos actions cette année encore pour 5785.
Restons forts, unis et solidaires. Donnez maintenant sur fsiu.org, fsiu.org.
Le FSJU et toutes ses équipes vous souhaitent Shana Tova.
En Israël, chaque seconde compte. Sous la menace constante de missiles, le Magen David Adom est en première ligne pour sauver des vies. Ils ont besoin de vous, maintenant. Chaque don permet d'apporter des soins vitaux, de secourir les blessés et de protéger les civils. Faites un don aujourd'hui et devenez un acteur du sauvetage de vie en Israël. Rendez-vous sur mda-france.org.
mda-france.org.
Magen David Adom.
Association au service de la vie.
8h08 sur RCG, on est en ligne avec Julien Balloul en direct d'Israël. Julien, bonjour.
Bonjour.
On commence avec la difficile question de la préservation de la mémoire depuis le pogrom du 7 octobre. Et notamment, ça se joue sur la visite des lieux où se sont déroulés les massacres. Les habitants des lieux en question sont plutôt divisés sur la méthode à suivre. Vous nous en dites plus ce matin.
Oui, parce que ce sont évidemment des lieux pour l'histoire, des lieux qui ont été massacrés. On parle évidemment des kibbutz, hein, proches de la bande de Gaza, kibbutz Be'eri, kibbutz Niroz, kibbutz Kfar Aza, etc. On parle également du lieu où a eu lieu la fête de Nova, qui était un sorte de champ, si vous voulez, un immense terrain vague. Si vous voulez, il n'y a pas de construction. Et la question est de savoir, est-ce qu'il faut tout reconstruire à l'identique tel que c'était avant pour que la vie reprenne? Parce qu'on le sait, c'est le projet sioniste, c'est les kibbutz, etc. Est-ce qu'il faut laisser tel quel? Mais on parle également de maisons, de familles qui habitaient là, qui veulent peut-être rentrer. Ou eh bien, est-ce qu'il faut autoriser les visites de groupe? Il y a beaucoup de visites, en fait, depuis le 7 octobre de l'année dernière. Alors, au début, c'était des terrains, ce qu'on appelle des terrains militaires fermés. Et on faisait venir des délégations de l'étranger, enfin, par exemple, des ministres de l'étranger qui venaient, ou des gens importants, pour leur montrer ce qui s'était passé, pour les sensibiliser à la cause. Je sais que moi, à l'époque, il y a un an, le ministère, par exemple, des Affaires étrangères israélien m'avait contacté parce qu'il y avait une délégation de Français qui venait et m'avait proposé de venir les accompagner dans le sud. Et au fur et à mesure, si vous voulez, les lieux sont de plus en plus ouverts et il y a des visites guidées. Des visites guidées de ces kibbutz, des visites guidées du lieu de Nova. Ça met certains très mal à l'aise. avec certains qui accusent de faire du voyeurisme, du tourisme autour de la mort, ce genre de choses. Et il y en a certains qui bon, je parle, quand je dis certains, je parle des gens qui habitent sur place, hein, qui estiment au contraire qu'il faut que les gens voient. La question, est-ce qu'il faut l'ouvrir à tous? Est-ce qu'il faut l'ouvrir uniquement aux personnes qui pourront ensuite avoir une influence, que ce soit des ministres, que ce soit des journalistes, que ce soit des gens importants comme ça? Et puis, il y a une question également très délicate. Je lisais le témoignage d'un guide qui disait, voilà, moi j'étais dans Gaza, j'étais combattant dans Gaza et je veux que le monde voit, je veux que les gens voient. Sauf que quand on arrive par exemple à Kfar Aza, le Kfar Aza est encore en partie un champ de ruines. Parfois, vous arrivez devant des maisons qui sont entièrement calcinées, parce qu'on le rappelle, les terroristes sont passés maison par maison pour les détruire. Et il a dit, vous arrivez devant une maison, il n'y a plus de porte, les murs sont explosés, et on ne peut pas demander l'autorisation au propriétaire si on peut rentrer ou faire des photos ou pas, parce que le propriétaire, il est mort. Le propriétaire, il est peut-être kidnappé dans Gaza. Et donc, on ne peut même pas poser la question aux premiers intéressés, parce qu'ils n'ont pas, ils ne sont pas revenus. Et puis, parfois, vous rentrez dans des maisons de gens, c'est-à-dire que c'est pas uniquement un lieu public où il s'est passé quelque chose. C'est dans l'intimité de famille. Donc ça veut dire qu'il faut rentrer dans des maisons, etc., etc. Il faut l'autorisation des familles. C'est extrêmement délicat, c'est extrêmement compliqué. Pour le festival Nova, la question est un petit peu différente dans le sens où c'était dans la nature. Donc il n'y a pas, si vous voulez, de questions d'intimité des familles. Et je sais que là, depuis le début, pour le coup, il y a eu un travail qui a été fait pour récolter beaucoup de choses. On sait qu'il y a une exposition qui a eu lieu en Israël, puis dans le monde. Ils avaient ramené les voitures calcinées. Ils avaient ramené tous les objets trouvés sur le sol. Et puis, il va y avoir un immense monument aux morts dans la nature qui va être géré notamment par le CACAL, qui est en préparation et qui est très beau avec tous les visages. Donc là, la question se pose un peu différemment. Et puis la vraie question qu'il faudra, à laquelle il faudra trouver du temps pour répondre, c'est la question de ce tourisme sur les lieux. La question s'est posée de façon de manière générale pour le peuple juif et pour Israël. On le voit, bah, par exemple, pour les voyages, vous savez, en Pologne, les Israéliens au lycée sont régulièrement envoyés en Pologne sur les lieux de la Shoah. Et certains estiment que c'est une sorte de tourisme de la mort, etc., etc. Donc la question, si vous voulez, ce genre de question est assez fréquent en Israël et j'imagine qu'elle sera tranchée dans le futur.
Et au-delà de la mémoire, ce qui va compter bientôt, en tout cas on l'espère, c'est l'avenir. Un sondage inquiétant montre qu'au moins un Israélien sur deux évacué ne compte pas rentrer chez lui.
Oui, absolument. Et c'est particulièrement dramatique dans le Nord parce qu'il y avait eu un autre sondage en juin. Il me semble d'ailleurs qu'à l'époque, on avait parlé. La situation s'est dégradée puisque à l'époque, il y avait moins d'un Israélien sur deux qui envisageait de ne pas rentrer. Et là, aujourd'hui, il y a environ 70% des habitants du nord du pays qui envisagent de ne pas rentrer chez eux parce qu'ils estiment qu'ils ne sont pas en sécurité. C'est extrêmement inquiétant. C'est extrêmement triste également, après un an de guerre. Et puis, de manière générale, le sondage montre qu'il y a une situation qui est extrêmement compliquée pour ces familles. On voit par exemple que plusieurs d'entre eux, en 64%, pardon, d'entre eux disent avoir connu une baisse de leurs revenus. Beaucoup sont touchés par le chômage également. On parle aujourd'hui, hein, donc, notamment si on parle de ces personnes de l'Ordre, on parle de plusieurs dizaines de milliers de personnes. Il y a environ 68 500, pour être précis, personnes déplacées dans le Nord qui ne sont pas rentrées chez eux. Donc 70 000 personnes qui ne sont pas rentrées chez eux, je ne sais pas si vous imaginez ça à l'échelle de la France. À l'échelle de la France, ça serait plus de 500 000 Français qui ne sont toujours pas chez eux après plus d'un an et qui signalent tous avoir une baisse de revenus. Certains ne se retrouvent au chômage, etc., etc. Et donc plus d'un an après, le fait de voir que 70% envisagent de ne pas rentrer chez eux, c'est un chiffre qui est évidemment extrêmement inquiétant.
Merci beaucoup Julien Balloul, on vous retrouve la semaine prochaine. Bonne journée à vous.
Merci à vous.
8h14 sur RCJ, restez avec nous dans un instant, l'invité de la matinale Mahor Chiche, adjoint au maire PS du 19e arrondissement de Paris.
Depuis plus de 120 ans, le KKL reconstruit le pays d'Israël. Parcs, forêts, réservoirs d'eau, infrastructures, programmes éducatifs. En léguant tout ou partie de votre patrimoine, vous participerez au projet sioniste et laisserez votre empreinte en terre d'Israël. Contactez en toute discrétion le KKL et demandez Linda KKL 01 42 86 88 88 et sur le site kkl.fr.
Bain et déco. Donnez à votre salle de bain une dimension unique.
Bain et déco.
Votre cuisine ne ressemblera à aucune autre.
Le secret Bain et déco.
Un pôle d'architectes à votre écoute qui vous accompagne tout au long de votre projet.
Le plus, Bain et déco.
Les marques les plus prestigieuses et une seule ambition, l'exception. En neuf ou rénovation, nos propres équipes mènent votre projet de A à Z.
Bain et déco, deux showrooms de plus de 500 mètres carrés, Paris 11e et Boulogne.
Bainetdeco.com.
En Israël, chaque seconde compte. Sous la menace constante de missiles, le Magen David Adom est en première ligne pour sauver des vies. Ils ont besoin de vous, maintenant. Chaque don permet d'apporter des soins vitaux, de secourir les blessés et de protéger les civils. Faites un don aujourd'hui et devenez un acteur du sauvetage de vie en Israël. Rendez-vous sur mda-france.org.
mda-france.org.
Magen David Adom,
association au service de la vie.
8h15 sur RCJ, notre invité ce matin, Maor Chiche, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes conseiller de Paris, adjoint au maire du 19e arrondissement et avocat. On va commencer par cette photo qu'on a vue circuler hier, d'ailleurs à l'initiative de Sandrine Seban, directrice d'antenne RCJ, auquel Valérie Pécresse a réagi, la RATP, le préfet de police, celle d'un homme, on le rappelle pour nos auditeurs, dans le métro parisien, avec un t-shirt portant l'inscription anti-juif. Au-delà du fait que les actes antisémites, on le sait bien sûr, augmentent de façon exponentielle depuis désormais un an, cet événement, ça montre peut-être que l'antisémitisme, au-delà de tout ça, c'est même devenu une revendication quelque part.
Alors l'antisémitisme chez les supporters de foot, ça fait bien longtemps qu'il est présent, mais c'est vrai que l'afficher ostensiblement sur un maillot dans le métro, c'est quelque chose de jamais vu. Et je crois qu'en effet, il faut un sursaut de la société, là.
Mais est-ce que ce sursaut, on a l'impression que chacun, non pas chacun d'ailleurs, mais en tout cas qu'il est appelé des vœux de beaucoup de politiques depuis plusieurs mois maintenant. Qu'est-ce qui fait, selon vous, que ça ne prend pas quelque part ?
Je crois que évidemment le conflit au Proche-Orient alimente la haine et les préjugés, mais surtout on a une grave crise au sein de l'école et on doit éduquer contre les haines. Je crois que c'est la priorité nationale, refondre l'école pour que l'éducation civique, les notions de liberté, égalité, fraternité, laïcité, et puis le vivre ensemble qu'on a défendu, proclamé dans les années 80, doit redevenir un leitmotiv. Ça demande beaucoup d'investissement, beaucoup d'énergie, beaucoup de pédagogie, mais il y a quand même des belles initiatives dans notre pays les antiracistes restent majoritaires. Et c'est important aussi de le rappeler.
Les propos de ces derniers jours, à la fois ceux de Pascal Boniface sur Karim Bouamram, ceux de Bernard Kouchner sur l'antisémitisme et le lien avec ce qui se passe à Gaza, comment vous percevez à la fois ces mots et cette ambiance dans le débat public depuis de nombreux mois maintenant ?
Depuis maintenant le 7 octobre, on l'a vu, on l'a ressenti, il suffit d'aller sur les réseaux sociaux, on a une essentialisation des citoyens, que ce soit les citoyens juifs, les citoyens musulmans. On en est arrivé là. Et ce qui est dramatique, c'est qu'un parti politique, LFI, a alimenté ce terreau. Et aujourd'hui, on voit que des chercheurs, des spécialistes, des anciens ministres tombent dans le racisme et l'antisémitisme le plus primaire. Et pour reprendre une expression, c'est vrai qu'on s'attendait à une flambée des violences dans les quartiers. On s'attendait à l'antisémitisme des salons classiques. Mais on ne s'attendait pas à ce que des jeunes étudiants de Sciences Po, de Harvard et des grandes écoles ou de Columbia tombent dans un tel antisémitisme. Et je crois que le défi majeur, comme je l'ai dit, c'est éduquer contre les haines, revenir sur qu'est-ce que l'État d'Israël, revenir sur qu'est-ce que les religions, qu'est-ce que le judaïsme, casser les préjugés. Je crois que véritablement, on a un mur qui s'est construit autour de la notion de judéité. Et aujourd'hui, beaucoup de gens ignorent ce qu'est être un juif.
Vous l'avez dit, LFI qui alimente cette dynamique. Et dans le même temps, vous êtes au PS, vous dénoncez fréquemment les propos de LFI. Mais on a envie de vous dire, et après, ça fait déjà quand même un certain temps que vous n'êtes plus en phase, que ce soit sur l'antisémitisme, sur le Proche-Orient, sur la laïcité, sur la lutte contre l'islamisme radical. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, quand même, cette alliance, elle tient toujours ?
Alors, je crois d'abord qu'il y a un temps de clarification. C'est-à-dire que, après la déroute électorale, après le quinquennat de François Hollande, la gauche était en miettes. Bernard-Henri Lévy parlait de cadavres de la gauche. Et je crois que la social-démocratie doit retrouver un chemin. Elle a beaucoup gouverné. Et on sait que le capitalisme transnational fait que c'est de plus en plus dur de réguler. On voit bien le débat budgétaire et ses difficultés. Concernant LFI, il est devenu de facto la première force politique à gauche après le quinquennat Hollande. Et je crois que tant que Jean-Luc Mélenchon et LFI seront ou apparaîtront comme l'espoir de la gauche, l'unité autour de lui restera. Ce qui commence à éclore et à apparaître, c'est quand même que de plus en plus de personnalités, de proches d'Olivier Faure, un certain nombre de responsables politiques ont compris que là, Jean-Luc Mélenchon, ses outrances sont allées beaucoup trop loin et qu'en effet, on ne peut pas travailler avec quelqu'un qui ne condamne pas les appels au meurtre de policiers, qui considère que tout doit passer par lui, qui purge au sein de ses propres militants et surtout qui, sur le 7 octobre et le terrorisme, n'a pas une position suffisamment claire et républicaine. Et le drame peut-être de la gauche et de notre République, c'est qu'il a incarné à un moment donné un espoir et un modèle de républicanisme et que finalement aujourd'hui il est le premier défenseur du communautarisme.
Au-delà de la figure de Jean-Luc Mélenchon, est-ce que quand vous lisez par exemple que Rima Hassan va aller se mobiliser pour les municipales, donc quelque part contre Karim Bouamram à Saint-Ouen, est-ce que voilà, des choses comme ça, ça vous fait peur de se dire cette gauche républicaine que vous défendez avec d'autres, aujourd'hui, elle est menacée ?
Il y a une concurrence entre une gauche communautariste qui cède aux sirènes des islamistes, qui cède aux sirènes du communautarisme et qui, pour quelques voix, vend son âme, avec une gauche universaliste, républicaine, dont Karim Bouamran est aujourd'hui une des incarnations. Et c'est pas pour rien si Rima Hassan annonce vouloir se présenter contre lui, parce que dans un moment difficile, il a décidé d'avoir des positions nuancées, des positions équilibrées, des positions républicaine et de condamner ce qui est du terrorisme et de ne pas être dans l'anti-Netanyahou primaire. Et je crois que cette course de vitesse entre les deux gauches est engagée. Manuel Valls parlait de deux gauches irréconciliables. On voit qu'il avait raison.
Marchis, vous êtes élu du 19e arrondissement. Quelle est l'ambiance dans cet arrondissement depuis un an maintenant ? Comment vous décririez ? Est-ce qu'il y a déjà, quel est l'état des lieux des actes et ou des propos antisémites et aussi l'atmosphère ?
Alors le 19e arrondissement, c'est un arrondissement qu'on connaît bien, avec 127 nationalités, la première communauté juive d'Europe, plus de 70 synagogues oratoires, un vivre ensemble qui existe depuis longtemps, avec des quartiers où la communauté juive se développe, le quartier Scréton, le quartier Manin, autour des buts de Chaumont. Et puis évidemment, on est soumis à l'antisémitisme. Moi-même, j'avais dénoncé dans les années 2000 l'émergence d'un nouvel antisémitisme qu'on voyait éclore, lié à l'islamisme et puis à la bande des buts de Chaumont. Et puis, il y a eu un grand investissement des pouvoirs publics, un grand travail des acteurs associatifs et sociaux, une ouverture de la communauté juive aussi vis-à-vis des autres citoyens. Et il faut dire qu'aujourd'hui, dans le 19e, comme à Sarcelles, comme dans un certain grand nombre de villes où il y a un vrai multiculturalisme, ça se passe bien. C'est-à-dire que, évidemment, après le 7 octobre, nous étions inquiets sur d'éventuelles explosions d'antisémitisme. Et c'est peut-être un des paradoxes français. C'est que nos réseaux sociaux sont très véhéments. Les statistiques montrent une explosion de l'antisémitisme, et puis dans nos quartiers populaires où les habitants juifs français, les habitants musulmans français qui vivent ensemble depuis plus de 40 ans continuent à cohabiter. Et on l'avait vu pendant le Covid, il y avait eu beaucoup de gestes de solidarité intergénérationnelle, intercommunautaire, malgré le 7 octobre, le vivre ensemble est très chéri. Moi je vois souvent des membres de la communauté juive aller faire leurs courses chez des commerçants pakistanais ou autres, et où ils sont accueillis presque très chaleureusement pour dire on est avec vous, on tient à vivre ensemble. Et je crois que c'est aussi ça la force du 19e, c'est qu'on a une construction urbaine, locale, qui fait qu'il n'y a pas de quartier ghetto et où chaque communauté, membre des différentes communautés peuvent se croiser, s'apprécier et se rencontrer. Et puis évidemment, il y a un rôle pacificateur de la mairie avec ses grandes actions pédagogiques auprès des CM2, des collégiens. On fait se rencontrer les écoles juives, les écoles publiques, les écoles catholiques, et on mélange tout ça. On les emmène au musée de la Grande Guerre à Meaux, au mémorial de Caen, et tout ce travail fait avec les enseignants est évidemment très précieux. Et je tiens à remercier aussi les forces de l'ordre et le SPCJ qui sont très présents pour assurer la sécurité de tous les édifices de toutes les communautés.
Mais dans le même temps, il y a une réalité hein, que d'ailleurs les présidents de communautés dans le 19e ne nient pas eux-mêmes. Les juifs du 19e s'en vont. Alors ils vont vers l'ouest parisien souvent où ils font leur alia parce qu'il y a un sentiment que ce soit dans un cas ou dans l'autre de plus de sécurité. Mais en fait, il y a cette réalité-là de ces quartiers, quand bien même aujourd'hui l'ambiance ne serait pas forcément catastrophique, ils s'en vont, les juifs.
Alors, je crois que d'abord qu'il y a autant de juifs qui partent du 19e qui en arrivent dans le 19e. On a le même phénomène avec les habitants du 19e. On a à peu près 20 à 30 000 habitants qui quittent chaque année l'arrondissement, soit pour partir en province, soit pour acheter un bien immobilier en proche banlieue parce que le prix à Paris a explosé. Et donc, je crois pas qu'on puisse faire une analyse aussi rapide sur un lien aussi rapide entre antisémitisme et départ vers l'ouest parisien. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont voulu se rapprocher de leur famille ou pouvoir devenir propriétaire et qui ont quitté le 19e pour cela. Mais on a encore une communauté juive très vivace. Je vais prendre juste l'exemple, par exemple, de la communauté d'Henri Murger, qui va avoir une nouvelle construction avec un nouvel édifice. Donc, dans le 19e, on continue à construire des synagogues, on continue à accueillir des demandeurs de logements sociaux de la communauté juive. Donc, on a une communauté, au contraire, très riche d'envie de vivre, parce que dans le 19e, et on l'a vu pendant le Covid, on a des commerces communautaires, on a des transports, on a des synagogues, on a des crèches, par exemple, dans l'ouest parisien, ils ont beaucoup moins de place en crèche que dans le 19e, et c'est évidemment un des éléments attractifs de notre arrondissement. Et puis, pour répondre à votre question sur les actes antisémites qu'il y a pu avoir, évidemment, comme partout en France, il y a pu avoir quelques graffitis, des insultes, voire quelques agressions, mais honnêtement, ça reste très peu nombreux, très peu significatif par rapport au nombre d'habitants.
Une dernière question, Maorchiche, vous êtes très mobilisé depuis le 7 octobre pour la libération des otages, et pour autant, on a l'impression que ce n'est pas vraiment un sujet, que ce soit, pas nécessairement dans le 19e, mais à Paris, qui est en tout cas une méconnaissance générale de qui sont ces otages, et également des deux Français qui sont toujours retenus dans la bande de Gaza. Qu'est-ce qu'il y a à faire là-dessus ?
Il faut continuer le travail de mobilisation, de visibilisation des otages. Moi, je vois qu'il y a plus d'une soixantaine d'associations aujourd'hui qui collent les visages des otages dans Paris. La mairie de Paris a mis sur son parvis les photos des otages. Il y a beaucoup d'interpellations des médias pour qu'ils en parlent plus. Vos confrères journalistes eux-mêmes reconnaissent qu'ils n'en parlent pas assez de ces otages. C'est vrai que le nombre de... Ils étaient 242. Aujourd'hui, on estime qu'ils sont à 101. Évidemment, beaucoup craignent pour leur vie. Beaucoup pensent peut-être que c'est la bataille est déjà perdue, mais moi, ce que j'ai rencontré, y compris dans le 19e, c'est des mamans qui ont 4 enfants et qui vont coller 3 fois par mois les photos des otages dans les rues de Paris. Et si vous regardez ce qui se passe ailleurs en France, en province aussi, il y a un élan incroyable en faveur des otages. On peut reprendre l'ensemble des initiatives qu'il y a eu autour du 7 octobre. Je pense à Aix, en Provence, à Nice. Il y a eu vraiment un élan citoyen incroyable. Beaucoup de collectifs se sont créés et il faut continuer ce combat jusqu'au retour du dernier. Publication d'articles, lobbying, il y a de plus en plus de députés, y compris de gauche, qui parlent des otages. Moi, je trouve formidable ce que font les maires de l'Espoir tous les vendredis avec la Viso, ces rassemblements citoyens qui invite des personnalités pour lire des témoignages d'otages, l'histoire des otages. C'est incroyable. Et la dernière initiative importante a été celle du CRIF, bien sûr, qui a réuni plus de 4000 personnes autour des otages.
Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin sur RCJ. C'est la fin de cette édition. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne. Sur Radio J, merci de votre fidélité. Comme tous les matins, nous sommes le mercredi 23 octobre, 383e jour de guerre en Israël et malheureusement, ne les oublions pas, toujours 101 otages à Gaza. L'essentiel de l'information avec Eva Soto. Bonjour Eva.
Bonjour Ilana, bonjour à tous. À la une de l'actualité, en ce 383e jour de guerre pour Israël, les habitants de Tel Aviv et des localités avoisinantes aux abris. Ce matin, le Hezbollah a tiré des roquettes de longue portée, deux interceptées au-dessus de Tel Aviv. Les habitants de Haute-Galilée, eux aussi, ont subi ces alertes. Attaques qui ont également fait un mort dans les rangs de Tsahal hier. Trois soldats israéliens tués dont les noms ont été autorisés ce matin à la publication. Le Hezbollah a décapité, le successeur désigné d'Hassan Nasrallah, lui aussi éliminé. En fait, Hachem Safieddine a été tué dans une frappe aérienne israélienne sur Beyrouth au début du mois. Tsahal, qui ce matin a émis des ordres d'évacuation au Liban dans la région de Tyr, qui va donc être ciblée par des raids israéliens. Sur le front sud, une opération majeure d'acheminement d'aide humanitaire vers la bande de Gaza. Un convoi chargé de produits de première nécessité acheminé vers le nord du territoire particulièrement affecté par la guerre lancée par le Hamas. Le coordinateur des activités du gouvernement israélien dans les territoires annonce que ces opérations vont continuer conformément au droit international. Diplomatie, le secrétaire d'État américain attendu en Arabie Saoudite aujourd'hui. Hier, Anthony Blinken était en Israël. Au menu de ses entretiens à Jérusalem avec Benjamin Netanyahou, Anthony Blinken a appelé le premier ministre israélien à capitaliser sur l'élimination du numéro 1 du Hamas, Yahya Sinwar, avec un double but, obtenir la libération de tous les otages, encore 101 dans la bande de Gaza, et un cessez-le-feu qui garantisse à tous la sécurité. Et puis en France, anti-juif comme slogan sur un t-shirt. Un homme a été photographié dans cette tenue dans une rame de métro à Paris. L'image postée sur les réseaux sociaux est devenue virale. Une enquête est ouverte. La RATP va porter plainte.
Merci beaucoup Eva Soto. Eva, prochain rendez-vous avec l'actualité tout à l'heure à partir de 9h sur Radio J.
Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian.
Radio J. Ne bougez pas, dans quelques instants, notre invité, le réalisateur Fabien Antoniente, pour son film 4-0, la suite de 3-0, sorti il y a déjà 22 ans. À tout de suite.
Radio J. Bonjour, c'est Philippe Lelouch. Le mardi 12 novembre 2024, à 20h, au Palais des Glaces, venez rire avec Radio J, qui lance son comédie club Radio J sur scène. Ce sera le mardi 12 novembre 2024, à 20h. Je vous embrasse, à très vite.
Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian.
Je reviendrai pour parler football. C'est ce que nous avait promis le réalisateur Fabien Antoniente. Et oui, il y a un peu plus de 2 ans sur Radio J, il nous présentait alors sa toute première fiction historique dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale, Les Enfants des Justes. Et il revient donc dans un tout autre registre pour une comédie qui parle football. Justement, 4-0. Bonjour Fabien.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Et oui, je m'en souviens très bien. Alors, vous êtes pour rappel célèbre pour avoir réalisé des films à succès comme Camping et Disco, 3-0, réalisé en 2001. Film qui avait à l'époque rassemblé plus d'1 252 000 personnes au box-office. Et vous revenez donc avec une suite. Alors, c'est le récit de la famille Pinto, fana de football, qui tient un restaurant portugais à Ponto Combo, le Churrasco. Mais les affaires vont mal. Le fils Manu, trentenaire un peu paumé, rêve de devenir agent de joueur. Un jour, il tombe sur une pépite, comme il dit, Kidane, un jeune prodige qui met le feu sur les terrains, mais d'autres agents rôdent déjà autour. Alors, il va falloir se battre pour le récupérer, Kidane. Écoutez la bande-annonce et on en parle juste après.
Papa, j'ai mis la main sur une pépite.
Et tu l'as trouvée où, ta pépite? C'est vrai qu'il a un petit quelque chose, hein, le gamin.
Tu sais qui donne? Avec nous, t'auras une famille. Les Pintos.
Les requins sont déjà là, hein, ça rôde. Hein.
Le mec là, c'est DZ. C'est le plus grand agent du foot français. Un tueur, le mec.
Manu a découvert un super joueur.
On voudrait que tu nous aides à lui trouver un club.
Choqué pour ton frère. Mets pas un commentaire sur mon resto.
Le football, il a changé, monsieur Colonna.
Oh, frérot. Venez là, frérot.
Ok, frérot.
Dis-moi, c'est quoi cette famille de frérot? Vous viennent porter ou quoi?
Je vais faire venir un ami qui est pas vraiment de la génération, frérot. Hein. Monsieur Giroud. Oh,
sérieux, c'est une blague, là?
Bon, écoute, si c'est pour dénigrer tout ce que je fais, on arrête tout, d'accord? Ça te dirait de changer de vie, José? Et j'aimerais que tu te fasses passer pour le directeur de foot d'un club.
Sylvie, j'ai envie que tu m'admires à nouveau.
Il a pris un coup, le maillot, là?
Ah, c'est la machine.
Mmh, t'en donnerai un autre, de toute façon.
Merci, frérot, t'es un vrai. Frère,
tu peux me passer ton slip aussi?
Arrête aussi, t'abuses.
4-0, son réalisateur Fabien Antoniente est donc avec nous. Fabien, pourquoi avoir attendu plus de 20 ans pour réaliser la suite?
C'est-à-dire que depuis 3-0, j'ai pas mal d'amis dans ce milieu du foot. Et tout le monde me disait, quand est-ce que tu fais une suite? Il est devenu un peu culte, ce film.
Bah oui, carrément.
Et donc, j'avais pas trop envie d'y toucher, puis... Avec le temps et puis surtout avec ces derniers temps, là, Kylian Mbappé qui dit, en l'occurrence,
le monde du foot a changé.
Le foot, il a changé.
Ouais.
J'ai tout d'un coup vu le film que je pouvais faire, c'est-à-dire le monde d'avant contre le monde de maintenant, et à travers le ballon rond raconter un peu l'histoire du changement de société.
C'est vrai. En train de vivre. On va en parler. Ce sont deux visions qui s'opposent. Alors, d'abord pour le casting. Alors, c'est vrai, un casting de choc. Hein. Isabelle Nanty, Gérard Lanvin, Didier Bourdon, Tommy Bugsy, beaucoup de stars du foot également. Vous avez sorti votre carnet d'adresses, là, Fabien.
Ah, bah là, j'ai fait tapis. Mais non, mais en plus, c'est vrai que j'adore côtoyer les joueurs de foot, ouais. Côtoyer les gens de ce milieu.
Marquinhos, Kimpembe, Pogba, on retrouve Giroud également.
Ouais, on a un partenariat avec le Paris Saint-Germain, puisque la production a donné des sous à la fondation des Bleus et Rouges, la fondation Paris Saint-Germain, pour aider des gamins. Nous, en échange, on a eu le droit de tourner au campus PSG. On est les premiers à tourner dans cet endroit qui est quand même hallucinant.
Ouais.
Ils ont des conditions d'entraînement exceptionnelles. On a tourné au Parc des Princes, on a tourné avec des joueurs de foot actuels du Paris Saint-Germain, mais aussi des légendes comme Rai, comme Giroud, comme Papin, comme Roland Courbis,
ouais.
Et Paul Pogba.
Alors comment justement le choix de ces acteurs s'est imposé? Parce qu'on retrouve aussi des personnalités du monde de la musique, Kaaris, le rappeur Kaaris, Shaim, la chanteuse, on la voit pas souvent, c'est vrai, au cinéma, là c'est un petit peu finalement son entrée dans le monde du grand écran. Comment ça s'est passé concrètement?
Ben parce que en fait, je voulais féminiser le rôle d'agent de football, et il y avait une fille que j'avais repérée qui s'appelle Sonia Swede, et qui a fait tomber d'ailleurs un peu Noël Legrette, l'ancien ouais. patron de la Fédération Française de Foot. C'est une fille qui peut regarder les gens droit dans les yeux, et Shaim a ce caractère pour être une fille au milieu d'un milieu, dans un milieu d'hommes. Elle vient des quartiers, elle a un caractère qui permet d'affronter ce regard un peu dubitatif de certains hommes.
Ouais.
Et de se faire écouter. Donc elle correspondait parfaitement au personnage que je voulais décrire.
Et puis ça permet aussi d'apporter des nouveaux téléspectateurs, les spectateurs de cette génération-là, de ceux qui grandissent avec la musique de Kaaris, avec des personnalités comme Shaim justement.
Kaaris, lui, c'est autre chose, c'est parce que je voulais un rappeur et ils ont l'attitude des agents de footballeurs. Qui sortent d'un jet avec 10 potes. C'est quand même une attitude particulière. Quoi.
Ouais.
Et donc, voilà.
L'attitude des frérots, justement.
C'est les frérots, c'est la fameuse famille des frérots. On est tous un peu frérots là-dedans.
Alors, dans 4-0, vous l'avez dit, ce sont deux visions qui s'opposent entre les agents à l'ancienne, hein, si je puis dire, et les nouveaux, ceux qui n'ont aucun scrupule, souvent, qui ne pensent qu'au côté lucratif, finalement, du football. Vous, vous avez connu, justement, ce monde du football à l'époque, sans forcément toutes ces traces, toutes ces strass, ces paillettes. Vous trouvez que c'est un milieu qui a évolué dans le mauvais sens?
Bon, je dirais, c'est pour ça que ce film m'intéresse, moi. C'est que, à travers le ballon rond, je fais aussi l'étude d'une époque. Et c'est l'époque qui a évolué dans ce sens-là. Tout est devenu plus violent, plus hard. Là, évidemment, il y a plus d'argent en jeu. Donc, ça attire beaucoup plus de rapaces.
Ouais.
Et il y a des agents qui sont, celui de Caris, que décrit Scheim dans le film. Il aurait pu choisir drogue, il a choisi foot, mais c'est des violents.
Ouais.
La société s'est endurcie depuis 20 ans. À l'époque, on appréciait la boxe, maintenant c'est le MMA. Vous voyez, c'est pas le même. On n'est pas dans un monde de bisounours, et le fossé entre les riches et les pauvres s'est creusé aussi.
Ouais.
Donc c'est pareil pour les clubs. Il y a des clubs qui ont de l'argent, puis des clubs qui ont moins d'argent. Donc c'est cet aspect très très financier qui attire beaucoup de gens. Par exemple, une famille maintenant pense qu'elle peut s'en sortir, et c'est toujours délicat de dire ça, parce que leur fils joue bien au foot et il est forcément le nouvel Mbappé. Mais il peut arriver.
D'ailleurs, dans les cités, il y a des gars qui peuvent scruter. Voilà, c'est ça.
Ouais, ouais. Avec des doudounes bidons, Manchester City.
C'est-à-dire, ils s'assoient devant le terrain de foot, ouais, et regardent qui pourrait être le prochain Mbappé.
Voilà. Ils passent leur vie à ça. Et parce qu'il y a du fric à gagner au bout. Donc, même les familles, c'est toujours délicat parce que quand un papa ou une maman pense que. Moi, j'en ai entendu pas mal, hein, disons, moi, mon fils, tu verrais ça, c'est incroyable. Même chez des acteurs connus.
Ah oui. Dites-nous des noms, Fabien. Qui pense que son enfant est un prodige du football?
Franck Dubosc.
Franck Dubosc, c'est vrai.
Et c'est difficile parce que y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Et il suffit pas que du talent au pied. Il faut aussi une force mentale. Il faut une part de chance. Il y a tellement de paramètres. Et avant d'arriver, et puis même ceux qui se blessent, parce que ça arrive aussi, le rêve s'éloigne. Donc c'est un milieu qui fait rêver. Alors dans mon film, j'ai choisi de prendre le parcours d'un jeune migrant qui a perdu tout.
Mais alors justement, ça c'est intéressant aussi, beaucoup d'émotions finalement dans 4-0, l'histoire de ce garçon Kidane, originaire des Comores, interprété par Mamadou Haïdara. Il joue ce garçon, c'est vrai, venu en France par bateau, qui a quitté son pays pour vivre son rêve, seul rescapé d'ailleurs avec un autre migrant, hein, c'est ce qu'on apprend. C'est un thème qui vous touche particulièrement, ça?
Oui, parce que ils ont pour rien, ils ont fui des pays souvent en guerre ou en faillite, et donc ils arrivent quoi que coûte que coûte, et là on retrouve ce jeune Kidane qui est plongeur au Churrasco, qui
a été accueilli par la famille Pinto,
accueilli
cette famille portugaise,
mais qui n'avaient pas trop capté, et c'est lors du défi de la Lucarne que le fils Pinto voit que le plongeur est une pépite.
Ouais.
Et là, la famille Pinto se met en branle, est persuadée que là, cette fois-ci, c'est la fin des ennuis, parce que le restaurant Badelet, là, c'est un peu comme cauchemar en cuisine. Il y a personne.
D'ailleurs, à un moment, c'est vrai, un karaoké est organisé pour tenter de relever le niveau. On vous voit chanter, je crois.
C'est le plan B qu'avait envisagé José Pinto, donc Didier Bourdon, pour sauver le Churrasco, mais c'est pas très brillant. Donc, non, c'est des gens dans la difficulté qui, tout d'un coup, voient à travers cette pépite la possibilité de s'en sortir. Mais moi, quand j'avais été... J'ai un copain qui entraînait le RC Lens, Antoine Cambouaré, et j'avais dormi au centre de formation du RC Lens, et le matin, je voyais les familles qui arrivaient avec leurs enfants en disant « Moi, j'ai une pépite, moi, j'ai une pépite ». Et puis, souvent, c'est un pépito.
Alors, plusieurs thèmes sont mis en avant, c'est vrai, vous en parliez, comme les clauses cachées dans les contrats au moment des transferts, les commissions d'agents exorbitantes, le phénomène des petits joueurs qui sont envoyés aux quatre coins du monde par leurs agents respectifs pour faciliter d'autres transactions plus grosses, la question de la multipropriété d'un joueur aussi, finalement, on voit ce joueur, finalement, n'est même plus un, on a l'impression que c'est même plus un être humain, c'est une machine à fric, en fait, c'est ça.
C'est ça, ils sont découpés comme du jambon, hein. Et ça existe, oui, c'est souvent des joueurs qui viennent d'Amérique du Sud. Ouais. Donc, tout ce qui est dans le film est vrai.
Vous avez été aidé, Fabien, pour la mise en scène, pour l'écriture de ce film, précisément, par justement des spécialistes du football, peut-être.
Oui, mais en fait, comme je suis un peu curieux, j'ai posé des questions. Je pose souvent des questions qui sont pas en rapport avec l'écriture du film, et petit à petit, ça devient l'écriture du film. Ça se fait en ce mode-là.
Ouais. Parce que c'est vrai, vous parliez notamment de Karim Djaziri,
qui a été l'agent de Karim Benzema,
ouais.
Et qui m'a vraiment guidé sur ce chemin, qui connaît bien, les embrouilles de d'agents, quoi.
Ouais.
Qui a osé m'en parler, quoi. Donc c'est vrai que. Il y a plein, et puis il y a des anecdotes encore que j'ai pas mis, parce qu'il y en a tellement, mais enfin bon, déjà, je pense que les gens en ont pour leur argent, parce que le film est assez riche.
Tout à fait. Il y a beaucoup de sujets qui sont abordés. Alors, on évoquait l'émotion, justement, avec cette crise migratoire. C'est un sujet qui vous touche, des migrants qui viennent en France pour tenter d'avoir une vie meilleure. Aujourd'hui, le pays aussi, on le voit, Fabien, est de plus en plus divisé, dans un contexte international également très difficile. Vous êtes connu, vous, pour des comédies comme Camping, Jet Set, 3-0, donc 4-0 maintenant. On a besoin de comédies dans notre pays, on a besoin de rire.
Bah, vous avez vu l'épisode des Jeux Olympiques. Tout d'un coup, la France, parce que j'étais obligé de rester à Paris. Au début, je râlais. J'étais obligé d'être à Paris pour les
Et
jeux.
Finalement, comme tout le monde,
Tout le monde, j'ai adoré. Et je traversais Paris en vélo. Et c'était vraiment sympa. Et j'ai vu le sourire sur le visage des gens. Et je me disais, mais c'est quand même possible. C'est quand même possible de réunir. Les gens, alors que avant les jeux, c'était quand même très très divisé, et ça a pas mis beaucoup de temps pour se rediviser.
Ouais.
Donc je pense que
les événements sportifs rassemblent.
Je pense les films aussi. Ouais. Mon film est un film post JO.
Le football, c'est un sport universel, une passion française, mais aussi, on le voit finalement, les films de football sont assez rares en France. Pourquoi, selon vous, le genre du film du sport est sous-exploité dans le cinéma français? Est-ce que vous êtes d'accord déjà avec ce constat?
Oui, mais... non, mais c'est vrai qu'il y a peu de films sur le sport, parce que bon, il y en a beaucoup à la télé.
Ouais, c'est ça.
Je pense que c'est une des raisons.
Ouais, et ça coûte cher aussi peut-être.
Et puis
de filmer dans des parcs.
Oui. Mais non, c'est parce que moi, je pense que c'est souvent fake. Et je voulais pas que ça le soit, parce que j'aime trop. Donc je me suis mis une barre obligatoire. Il fallait pas que ce soit fake. Ne serait-ce que par rapport à tous les copains que j'ai là-dedans. Ouais. Ça aurait été déceptif. Surtout après 3-0 aussi.
Ouais.
Donc, j'ai essayé de faire en sorte que le film soit exact avec ce qu'on voit et ce qu'on peut voir. Alors, donc, le film n'est pas vraiment comme un match, filmé comme un match de foot à la télé. On a un petit plus, on est sur le terrain, on a des petites choses, mais c'est pas le centre du film. Le centre du film, c'est une aventure humaine, c'est une aventure familiale.
Tout à fait.
C'est une comédie aussi pour passer un bon moment. Et par les temps qui courent, ça fait du bien.
Votre passion du football. Alors peut-être des questions plus personnelles pour vous. Si vous deviez réaliser un biopic, Fabien, vous qui êtes fan de football, sur une légende de ce monde du football, qui choisirez-vous et quel aspect de sa vie vous intéresserait le plus? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça?
C'est-à-dire que toutes les histoires humaines sont complexes, mais l'histoire de Pogba m'intéresse, l'histoire de Diego Maradona est passionnante, mais il y a eu beaucoup déjà de documentaires dessus. c'est souvent les histoires d'accidentés qui sont les plus intéressantes.
Ouais.
Parce que on aime les retours, on aime les comebacks. Là, cette histoire de Pogba, par exemple, c'est une histoire complexe parce que quand c'est le propre frangin qui braque son frère, c'est dur. Hein. Enfin, c'est vraiment une histoire horrible. Je pense que psychologiquement, il en reste quelque chose. Il s'est recentré sur sa famille. Et là, il va regoûter aux pelouses, au terrain, son terrain de travail, comme il dit. Et on a envie que ça marche, quoi.
Ouais.
Que le Paul Bach soit réussi.
En tout cas, vous avez ces projets peut-être en tête. Futurs projets autour du football encore ?
Non. Là, j'ai d'autres projets de comédie, mais pas autour du football.
Eh bien, merci beaucoup, Fabien Antoniente. Merci d'avoir été avec nous.
N'oubliez pas d'y aller rapidement, parce que c'est dans les débuts que se fait le succès d'un film.
À tous ceux qui ont un rêve. C'est ainsi que vous vous adressez d'ailleurs à la fin aux spectateurs. Merci d'avoir été avec nous, Fabien. 4-0 à voir dans les salles obscures, donc dès ce mercredi 23 octobre. Merci infiniment.
Bye.
À bientôt.
Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian. Radio
J. Antisémite publié, juif en danger, on est là, on vous voit, on est fort, on est fier, on est juif et en colère. Ce sont les slogans qui ont été scandés hier par le collectif Nous Vivrons à l'occasion d'une séance de dédicace d'un livre qui fait controverse. Pour en parler, nous sommes avec la présidente de ce collectif, Sarah Eisenman. Bonjour.
Bonjour Ilana.
Merci beaucoup Sarah d'être avec nous ce matin sur Radio J. Effectivement, vous étiez présent hier avec le collectif à cette dédicace d'un livre contre l'antisémitisme et ses instrumentalisations publiées par Ouria Boutelja, notamment Judith Butler ou encore Maxime Benatouil, des personnalités clivantes qui n'ont jamais masqué pourtant leur haine d'Israël. Que vous inspire la publication de ce livre ?
Écoutez, avec la publication de ce livre, on a encore franchi une nouvelle ligne rouge. Et c'est ce qu'on était venu, nous, hier, dénoncer lors de cette séance de dédicace que l'on a qualifiée de dédicace à la Hamas. Malheureusement, on n'a pas pu accéder à la librairie. Les forces de l'ordre, comme souvent, se sont interposées pour nous protéger, hein, toujours, considérant qu'il y avait une centaine d'individus très agités, une centaine d'individus de l'ultra-gauche, qui était venu pour en découdre avec les sionistes. Et donc, là où on était mobilisé pour mener une action pacifiste, comme on le fait à chaque fois, qui consistait à scander nos slogans et à exprimer nos opinions, tout simplement, on a dû rester loin. Mais on ne s'est pas dégonflé. On a pris la parole, on a branché nos mégaphones, on a scandé les slogans que vous avez cités en début d'interview. Ils nous ont entendus. On chante et on crie fort, on commence à avoir l'habitude et on leur a montré que les Juifs ne leur laisseraient pas le terrain, que les Juifs ne se tairaient pas, que les Juifs ne se tairaient pas, ce qui est la promesse du collectif Nous Vivrons depuis qu'on l'a créé il y a un an maintenant, et qu'on ne peut pas être aujourd'hui antisémite innocemment. Ouria Boutelja, qui fait partie des illustres auteurs de cet ouvrage, disait de façon abjecte à propos d'April Benayoun, candidate à l'élection de Miss France, on ne peut pas être israélien innocemment. Nous, aujourd'hui, on considère qu'on ne peut pas être antisémite innocemment, qu'on ne cédera rien aux antisémites, et que partout où ils seront, ils nous trouveront sur leur route.
Et effectivement, c'est intéressant, le cas d'Ouria Boutelja. Ouria Boutelja qui a multiplié les saillies antisémites. À l'époque, on s'en souvient, elle avait déclaré « Je suis Mohamed Merah ».« Mohamed Merah, c'est moi », en référence au tueur de l'école Ozar HaTorah Toulouse. Un livre contre l'antisémitisme écrit par des personnalités antisémites, selon vous, Sarah ?
Exactement. Bah, si vous voulez, ça leur suffisait pas, aux antisémites, depuis le 7 octobre, de déjà nous mettre une cible dans le dos, comme ils le font régulièrement, que ce soit les élus de la France insoumise, les indigènes de la République, comme Ouria Boutelja, Tzedek, comme Maxime Benatouil, etc. Ils ont ensuite décidé de nous invisibiliser et de nous silencier. Nos peurs, nos craintes n'existeraient pas. On serait devenus complètement paranoïaques, on en ferait tout un sketch. Donc en plus de ça, maintenant, ils s'emparent de nos luttes. C'est eux qui, en plus d'être antisémites, vont nous apprendre à lutter contre l'antisémitisme, puisque ce livre, en réalité, c'est quoi ? C'est la lutte contre l'antisémitisme pour les nuls, c'est petit usage de manipulation.
D'ailleurs, vous aviez
antisémites.
Vous aviez sorti des pancartes justement qui faisaient référence, par exemple, le dictateur chinois pour une démocratie, etc.
Exactement. En fait, nous, c'est vraiment le mode opérateur de nos vigerons. Et c'est ce qui les déstabilise. Ben non, les gars, on n'est pas violents. Hein. Il suffit pas de le dire pour que ce soit une réalité. On utilise très souvent l'humour, la dérision, l'ironie. Et donc là, ce livre contre l'antisémitisme et ses instrumentalisations a été publié aux éditions La Fabrique. Donc nous, on a décidé de continuer la collection des éditions de La Fabrique de la Honte avec, pourquoi pas, les talibans qui publieraient contre les violences sexuelles et sexistes faites aux femmes, ou Vladimir Poutine pour liberté de la presse et le droit de manifester librement. Enfin, vous avez tout sur nos comptes Instagram et Twitter.
Eh bien, merci. Nous vivrons. Merci beaucoup, Sarah. Je vous dis à très bientôt sur Radio J.
Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian.
Que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Et oui, ce célèbre couplet, on le connaît tous, issu de cette chanson sortie en 1965 déjà, et certainement une des plus chantées et connues au monde, un classique de la chanson française, traduite en plus de 5 langues, la bohème interprétée par le grand, le géant Charles Aznavour. Charles Aznavour qui nous quittait un mois d'octobre, le 1er octobre 2018. Il y a tant à dire sur cet homme, un artiste aux 185 millions d'albums vendus à travers le monde, une légende vivante de la chanson française et que les Américains ont d'ailleurs élu le plus grand artiste du XXe siècle. L'occasion de retracer son immense carrière à l'occasion du biopic, la sortie du biopic tant attendu aujourd'hui, Monsieur Aznavour, signé Mehdi Edir et Grand Corps Malade avec Taha Rahim, Bastien Bouillon, Marie-Julie Bop. Écoutez la bande-annonce.
Tu chantes et tu joues au théâtre.
Je t'avoue que je prends tout ce qui peut me rapporter de l'argent.
On va devoir partager le dîner.
Oui, je suis sûr, on va devoir dormir par terre.
Qu'est-ce que tu veux chanter?
Des chansons d'amour.
Pour chanter l'amour, faut être beau.
À 18 ans, j'ai quitté ma province. Bien des...
Tu vois qui est là? Edith Piaf.
T'es comme moi, toi. T'as chanté dans la rue.
Mais comment que j'ai chanté dans la rue?
Pour être chanteur, il faut une voix, et ta voix, elle est voilée.
Je veux faire mon propre disque. Ma tête sur la pochette, mon nom au-dessus. Faut qu'on passe à la vitesse supérieure.
Les photos, les chansons...
Et... Un Arménien, ça a la réputation de savoir compter. Aznavour ferait mieux de faire de la comptabilité. C'est pas du racisme, ça? Je vais convaincre chaque spectateur, dans chaque salle, et je chanterai jusqu'à m'en déchirer la glotte.
Monsieur Aznavour, fils de réfugié, petit, pauvre, à la voix voilée, on disait de lui qu'il n'avait rien pour réussir, et pourtant... Monsieur Aznavour, effectivement, donc sorti au cinéma ce mercredi. On peut revenir sur la naissance de Charles Aznavour. À l'origine, né le 22 mai 1924, son nom c'était Charnour Varinag Aznavourian. Mais ne parvenant pas à écrire correctement le prénom Charnour, un prénom arménien qui n'est pas reconnu à l'époque par la loi française sur l'état civil, la sage-femme de la clinique où naît le futur artiste déclare le bébé à l'état civil sous le prénom de Charles. Charles Aznavour, donc, à qui on rend hommage ce matin.
Dans son nouveau décor, Montmartre semble triste et les lilas sont morts. La bohème, on était jeunes, on était fous.
Aznavour, sorti au cinéma ce mercredi et on lui rend hommage ce matin. D'ailleurs, un concert aura lieu à Petah Tikva, en Israël, en réaction à son centenaire, effectivement, à Petah Tikva, très précisément, ce sera le 31 octobre prochain. Vous restez avec nous sur Radio J, comme tous les matins. C'est la fin de cette première édition, évidemment, mais l'info continue en compagnie de Léa Moscoco, Léa Moscona.
Bonjour, charmante Ilana.
Comment ça va?
Ça va bien, et vous?
Eh bien, écoutez, moi, ça va très bien. Vous aimez bien Charles Aznavour? Vous allez voir le biopic?
Mais qui n'aime pas Charles Aznavour?
Bah oui, c'est la grande question.
Oui, peut-être que j'irai voir le biopic, pourquoi pas?
Pourquoi pas?
Je me pose la question encore, je me tape.
Alors écoutez, on a quelques secondes pour teaser
la matinale. Écoutez, on va parler d'horreur.